L'un des jeux vidéo dont on parle beaucoup depuis la fin des années 80, c'est SimCity. On construit une ville en construisant des infrastructures, en délimitant les différentes zones commerciales, industrielles, etc., en mettant en place les services. Et le créateur du jeu disait que finalement, les joueurs finissaient par s'ennuyer s'il s'agissait juste de faire une simulation urbaine. Et donc, depuis le départ, dans SimCity, il est possible, voire presque nécessaire, d'y déclencher toutes sortes de catastrophes, des incendies et des émeutes, vous avez des invasions d'extraterrestres, vous avez ici Godzilla, on a aussi des tornades, des séismes, etc., avec les destructions qui s'ensuivent. Après ces catastrophes, il suffit la plupart du temps de déblayer les décombres, de reconnecter une partie de ce qu'on appelle désormais les réseaux critiques, ça va reconnecter les réseaux électriques, reconnecter les routes, l'eau, etc., et tout d'un coup, la ville repart. Et donc, il y a quelque part au cœur de SimCity, justement, cette idée de rebond qui correspond tout à fait à nos préoccupations sur la résilience. Donc, en fait, un jeu vidéo qui fonctionne très bien pour la résilience. La question, c'est, est-ce que on peut retourner la question et se demander si on peut faire progresser la connaissance sur la résilience à partir de ce jeu vidéo. Chaque année, des revues Anglo m'envoie des articles à évaluer de gens qui disent, voilà, on va étudier les inondations à partir de SimCity, on va étudier telle chose à partir d'eux. C'est en fait considéré comme presque une solution bon marché, puisque c'est un jeu vidéo disponible dans le commerce, pour faire de la simulation, sans avoir à redévelopper tous les outils. Et la réponse que je fais systématiquement, c'est la différence entre un territoire et un jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo fonctionne complètement selon les hypothèses du concepteur qui ont codé les différents processus. Autrement dit, le jeu vidéo nous en apprend plus sur les hypothèses, les conceptions et le cadre de pensée des concepteurs que sur les territoires. Et du coup, vous pouvez venir, puisque je travaille aussi sur les gestions de crise, notamment beaucoup travaillé dans un master en alternance sur des questions de cartographie, de représentation et de simulation. Vous avez ici des vidéos, des simulations 3D d'inondations à Paris qui ont été faites par des étudiants de master en lien avec Xavier Piges qui travaille à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement d'Île-de-France. Donc voilà, des visualisations en 3D des inondations, en montrant justement que c'est beaucoup plus efficace pour la communication sur le risque de montrer des vidéos avec des hauteurs d'eau et le fait que l'eau n'est pas turquoise pendant l'inondation plutôt que les cartes qu'on montre habituellement avec des étendues turquoises où les habitants ont l'impression qu'en fait c'est les Caraïbes, les inondations, ça va presque être les vacances, si bien dit. Et là vous avez ici l'une des cartes qui a été utilisée l'année dernière pendant le grand exercice européen Sequana d'inondation en Île-de-France. Du coup, la question qui se pose, c'est ces outils de cartographie, de représentation, d'anticipation, d'analyse de données, est-ce qu'ils sont tout autant une application jeu vidéo à la résilience, ou est-ce qu'ils ont un peu plus de rapport avec le fonctionnement des territoires? Je vous vois très clair. Là, vous êtes censé me sauter à la gorge, je vous explique que bien entendu, les outils que l'on fait ont plus de rapport avec les territoires qu'un jeu vidéo. Sur cette question de fécondité, on va garder cette question à l'esprit. Sur cette question de fécondité, je pense, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que oui, la résilience est féconde pour les villes et les territoires, mais elle est trop féconde. Et que le problème que l'on va avoir, c'est de faire le saut entre l'ouverture des possibilités permises au niveau théorique, et la mise en place de solutions pratiques et notamment de politiques publiques s'adossant à ces débats théoriques. Donc sur la fécondité et le succès de la résilience, il a été question du cadre de Hyogo porté par les Nations Unies depuis 2005, puis le cadre de Sendai sur 2015-2030, donc une mise en avant de la notion de résilience par les institutions internationales à partir d'il y a une quinzaine d'années. Aux États-Unis, pareil, la résilience est devenue l'une des grandes références des politiques publiques D'une part, après le 11 septembre, avec une série de publications, et d'autre part, après Katrina, on va revenir également sur Katrina, l'année dernière, c'était en 2005. Donc ici, c'est Resilient City, c'est un ouvrage de 2005 par Val Campanella, qui justement a été mis en place après le 11 septembre. Donc, en fait, en deux vagues de mise en avant de la résilience dans les politiques publiques, le 11 septembre 2001, puis 2005 avec le double tournant des institutions internationales avec le cadre de Hugo et Katrina aux États-Unis. Et donc ensuite des déclinaisons régionales où toute une série d'organisations régionales, d'institutions internationales se mettent à faire de la résilience jusqu'à la fameuse One Billion Coalition où il s'agit donc de lever $1 milliard pour aider les organisations internationales à faire de la résilience. Mais vous constatez que ce qu'indiquent les organisations internationales, c'est qu'elles sont là pour coordonner des initiatives et justement et faire émerger des politiques publiques pour dépenser ce milliard de dollars de la coalition, One Billion Coalition. Le problème est donc le passage de la théorie à la pratique. Et sur ce passage de la théorie à la pratique, c'est pas quelque chose de nouveau. On a parlé un peu de perspective historique sur les termes. En gestion des crises et des catastrophes, on a tendance à achoper sur ce passage de la théorie à la pratique, et donc à passer d'une notion à une autre lorsqu'on se retrouve face à des impasses pratiques. Et donc on est passé de la capacité d'adaptation autour de l'écologie humaine, entre les années 30 et les années 50, qui était le concept mis en avant sur la gestion des crises et des catastrophes. On s'est rendu compte, d'une part, qu'il était très difficile de le rendre opérationnel ou de l'opérationnaliser, d'autre part, comme il en a été déjà question ce matin, qu'il avait tendance à mettre l'accent sur des qualités plutôt que sur des processus, et notamment sur des qualités individuelles. Et du coup, on est passé dans les années 60 à l'idée d'absorption du choc, avec un pas en arrière, en se disant plutôt que de s'intéresser aux qualités des individus ou des groupes, on va s'intéresser au fonctionnement d'un système. Puis, en ayant du mal à transformer de façon opérationnelle cette absorption du choc, on est passé à la vulnérabilité dans les années 70, avec une dimension très critique, de critique dite radicale, qui avait tendance à expliquer qu'il fallait s'intéresser aux causes profondes des catastrophes, plutôt qu'à la superficialité, que ces causes profondes avaient dû étaient liées au fonctionnement économique et politique des sociétés, plutôt qu'à des qualités d'individus. Et la vulnérabilité, on a eu du mal à l'opérationnaliser, on n'en est pas encore complètement sorti, en disant que ça donnait une vision trop passive des sociétés, etc., qu'il fallait plus responsabiliser les sociétés ou leur laisser plus de marge de manœuvre. Et donc, on passe à la résilience en espérant trouver enfin une façon de rendre opérationnel le concept. Vous avez vu que de la résilience, on revient sur des histoires d'adaptation et d'apprentissage. Donc, on est comme dans une espèce de fuite en avant de ce passage de la théorie à la pratique, qui, plus qu'une fuite en avant, est, de mon point de vue, un bond en arrière, parce qu'on retombe au fur et à mesure sur des problèmes auxquels on pensait échapper en passant d'un concept à un autre. Notamment la naturalisation, où on a tendance, avec la résilience et l'adaptation, à renaturaliser les catastrophes, alors que le travail qui avait été fait autour de la vulnérabilité tendait à dénaturaliser les catastrophes. Notamment des travaux qui avaient montré, à la fin des années 70, puisqu'on parle de séisme, qu'un séisme est en fait le meilleur audit de l'état du logement que l'on puisse faire. Le séisme n'est pas lié aux secousses sismiques, il est lié à l'état du bâti, et il est lié au niveau de développement, au niveau de richesse des différents quartiers. Et en fait, on peut tout à fait, à partir d'un séisme, faire un... Ce qui renvoie d'ailleurs au vieux débat qu'il y avait en France sur la catastrophe, sur la laïcisation du danger. Donc, c'est ce débat entre Voltaire et Rousseau à propos du séisme à Lisbonne de novembre 1755, de savoir à quoi est dû le séisme. Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que ce sont les lois de la nature ou les lois de la société? Et donc, la vulnérabilité faisait plutôt pencher la balance du côté des lois de la société, et en allant vers la résilience, tendance à renaturaliser le problème, voire rendre désirable le darwinisme social. Et dans cet ouvrage qu'on a publié avec Magali suite au séminaire Résilience qu'on avait fait à partir de 2009. J'avais essayé de pousser jusque dans ces retranchements le concept, en essayant de le pousser le plus loin possible, disant que se passe-t-il si on déroule analytiquement les conséquences de la résilience pour les politiques publiques, en parlant justement de la naturalisation des catastrophes, de darwinisme social, d'injonction, en montrant que la résilience avait un côté de prophétie autoréalisatrice. Si on garde tout le désirable et tout ce qui est bien pour le mettre dans la résilience, et tout ce qui n'est pas désirable pour le mettre à l'extérieur de la résilience, c'est d'abord une prophétie autoréalisatrice, et ensuite plus une injonction qu'une notion qui invite à la réflexion. Et je pensais justement que, contrairement à ce qui est en train de se passer là, des collègues, des praticiens me sauteraient à la gorge en expliquant que je raconte absolument n'importe quoi, que c'était de la provoque gratuite, etc. Et malheureusement, depuis ce séminaire, plus les années passent et plus la réalité finit par rejoindre ce trait, j'avoue, un peu provocateur. À tel point, je ne sais pas si vous avez vu, après Irma aux États-Unis, qu'il a de nouveau été question d'entreprises exigeant que leurs employés qui sont payés au salaire minimum ne quittent pas leur poste de travail pour évacuer, sauf pour une période de 48 heures. Autrement dit, si vous évacuez plus de 48 heures et vous n'êtes pas de nouveau au travail, vous perdez votre job. Et donc, des syndicats aux États-Unis qui se sont beaucoup énervé en disant, d'un côté, vous payez les gens au salaire minimum, et de l'autre côté, vous leur demandez de risquer leur vie pour votre chiffre d'affaires. Enfin, donc, c'est les choses-là que j'avais essayé de montrer qui, malheureusement, se manifestent dans ce cadre théorique sur la résilience. Donc, je pourrais arrêter ma présentation ici en expliquant qu'il faut réussir à dépasser cette dimension d'horizon d'attente, cette dimension de projet, notamment parce qu'en fait, la résilience, comme l'instrument qui est celui du projet urbain, pose les mêmes problèmes, à savoir essayer de gommer les conflits d'intérêts, essayer de gommer les débats possibles pour poser la possibilité d'un consensus, voire d'une solution qui serait une solution technique à des problèmes sociétaux. Autrement dit, escamoter toute une partie des débats pour finir par imposer une solution dans le cadre de la résilience. Concrètement, que se passe-t-il quand on essaye de mettre en place des politiques publiques s'appuyant sur la résilience? Et là, on est face à un paradoxe, notamment si on met le regard au niveau des organisations internationales. Donc on a vu qu'elles promeuvent la résilience sur 2005-2015, puis 2015-2030, en levant des fonds, en se posant comme coordinateur. Ce rapport de 2014 des Nations Unies, donc sur les mesures de la résilience aux catastrophes, établit ce tableau sur les six phases, des programmes de résilience ou de la connaissance sur la résilience, en expliquant que au niveau de la connaissance, la phase 1 correspond à l'existence d'un cadre théorique. Il donne des exemples et on a vu qu'effectivement, il y a différentes définitions possibles, différentes façons de construire des cadres théoriques sur la résilience. Ce n'est pas un problème. Ensuite, une phase 2 où ces cadres théoriques et ces théories peuvent donner lieu à des indicateurs potentiels permettant de le mesurer. Pourquoi ? Parce que quand on fait des politiques publiques, il faut être en mesure de savoir de quoi on parle. Est-ce que l'on fait correspond effectivement aux objectifs et est-ce qu'on va dans la bonne direction ou dans une autre direction ? Donc c'est là le souci entre la mise en place de cadres théoriques et la mise en place de politiques publiques. L'étape 3 correspond à avoir une série d'indicateurs définis et vous voyez que les Nations Unies ont relevé 4 ou 5 ensembles d'indicateurs possibles pour mesurer la résilience. L'étape 4 correspond à avoir des données et une couverture géographique au moins partielle pour ces indicateurs. Vous voyez qu'il existe aussi, les Nations Unies ont relevé un certain nombre de projets qui disposent de bases de données, d'indicateurs et d'une couverture géographique au moins partielle. Et l'étape 5 correspond à avoir une couverture géographique la plus complète possible, des indicateurs qui sont institutionnalisés pour avoir une collecte régulière des données de façon à pouvoir suivre les mesures dans le temps. Et là, vous voyez des exemples. Et puis, il y a l'étape 6, qui est censée être le graal des politiques publiques sur la résilience, correspond à une vérification empirique des mesures. Et là, il est écrit, en toutes lettres, à notre connaissance, il n'existe pas de mesure de la résilience qui ait pu être vérifiée empiriquement. Autrement dit, ça répond à notre question. Ce sont des jeux vidéo. Ces mesures de la résilience et ces politiques publiques sur la résilience font des choses dont on n'est pas en mesure de s'assurer qu'il s'agit bien de résilience et pas d'autre chose. Autrement dit, on est dans le même problème que SimCity par rapport à la résilience. Ça marche super bien, mais on ne sait pas quel est le rapport qu'il y a effectivement avec les territoires. La validation supposerait quoi ? Validation correspond à une vérification méthodique que les estimations correspondent bien au phénomène, à la propriété. Et donc la question c'est, est-ce que les estimations de la résilience, est-ce que les programmes de résilience font de la résilience ou bien autre chose ? Il a été question plutôt de résistance, de réduction de la pauvreté, donc les objectifs millénaires, etc. ne sont pas tout à fait la même chose. Donc il y a d'abord une étape de validation théorique. Est-ce que les modèles sont cohérents ? Est-ce que les choix sont arbitraires ou est-ce qu'ils sont fondés ? Est-ce que il y a une convergence des points de vue ou pas ? Il y a la question de validation interne. Est-ce que en poursuivant le même raisonnement, on obtient le même résultat ou est-ce qu'on est sur des choses qui sont divergentes ? Est-ce que les méthodes sont cohérentes ? Est-ce qu'elles sont sensibles au bruit ? Donc est-ce qu'on est en train de faire des mesures qui sont extrêmement sensibles au bruit, ou bien est-ce qu'elles sont au contraire particulièrement robustes ? Quel est le niveau de confiance que l'on peut faire dans la démarche ? Et est-ce qu'on a raison de s'adonner à notre fétichisme du chiffre et de la carte, en montrant de gros indicateurs, des belles cartes, comme on sait aussi bien le faire sur la résistance. Et puis, l'étape de validation externe, dont les Nations Unies nous disent qu'elle n'a pas été atteinte, c'est en 2014, n'a pas été atteinte. Donc, est-ce que les différentes méthodes ont des résultats convergents ? Est-ce que ces résultats sont comparables aux données empiriques observables sur le terrain avant, pendant la crise ? Et est-ce que les résultats sont assez robustes pour servir d'aide à la décision et appuyer les politiques publiques ? Pour ces différentes étapes de validation, il y a différentes approches, des approches rétrospectives et des approches prospectives. Sur les approches rétrospectives, le souci qu'on a pour la validation, c'est que les résultats dépendent, on a un peu parlé du temps long, dépendent de où est-ce qu'on place le point de départ et le point d'arrivée. Donc, sur le temps plus ou moins long, par exemple sur le grand incendie de Chicago, vous voyez que ici en 1871, l'incendie ralentit l'étape de croissance urbaine de Chicago, mais ne l'inverse pas. Donc effectivement, cet incendie est défini comme l'un des archétypes de la ville phénix qui renaît de ses cendres, parce que l'incendie a certes ralenti la croissance de Chicago, mais n'a pas inversé la courbe de croissance. Sur le séisme de San Francisco, vous voyez ici qu'on est sur une pente descendante, et donc pareil, il n'y a pas de changement de la dynamique de décroissance du centre de San Francisco avant ou après le séisme. Et pareil, on peut avoir tendance à dire, si on regarde sur le temps long, sur les grandes dynamiques urbaines, il n'y a pas d'infléchissement, et donc il y a effectivement résilience. Sur Katrina, pareil, il y a la possibilité de dire Katrina arrive à la fin d'une longue phase de décroissance urbaine, et donc finalement, même si la décroissance se poursuit après la catastrophe, on continue à être dans une dynamique de résilience parce qu'il n'y a pas d'inversion de la courbe de croissance. Et puis si on change d'échelle et qu'on s'intéresse au bâti, c'est Bucarest. Moi, il y a cet exemple que j'aime beaucoup, Bucarest. Vous avez ici le Théâtre National à Bucarest dans les années 30. Vous avez ici les ruines du Théâtre National qui a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont duré jusqu'en 2006. Et en 2006, au moment où Bucarest a organisé le sommet de la francophonie, on voit réapparaître la façade du Théâtre National ici. Mais vous voyez que le bâtiment a complètement changé de fonction. C'est l'accord qui a été trouvé entre les pouvoirs publics et le promoteur qui a construit un hôtel. C'est OK, on vous cède la parcelle pour y construire un hôtel, mais à condition que vous mainteniez l'aspect dans une politique mémorielle qu'avait le théâtre national. Bucarest est intéressant du point de vue de ces questions de traumatisme et de catastrophe du fait de la conjonction entre un grand séisme en 1977 et une politique publique de reconstruction complète du centre-ville par un pouvoir dictatorial, par le pouvoir dictatorial de Ceausescu dans les années 80. Vous avez ici cette gigantesque avenue qui était censée être l'avenue du socialisme triomphant dans les années 80, qui est censée être plus longue et plus large que les Champs-Élysées, avec les bâtiments ici collectifs qui ont été construits tout le long de cette gigantesque percée, avec le palais du socialisme, ou palais de Ceausescu, qui a été construit à Bucarest à cette époque-là et qui est censé être l'un des bâtiments avec la plus grande surface au monde, l'un des rares que l'on voit avec la muraille de Chine depuis l'espace, etc. Enfin, vous pouvez utiliser tous les superlatifs que vous voulez. Donc le double traumatisme du séisme, de la catastrophe, et de la politique urbaine agressive par la suite, détruisant une partie du centre-ville dans une optique politique moderne. Eh bien, en fait, il y a une superposition de deux interprétations à Bucarest sur résilience ou pas de la ville. La ville martyre d'un côté, la ville résiliente ou la ville gaie de l'autre. Vous avez ici, donc, par exemple, Bucarest est devenue Demolition City au moment où Ceausescu a été exécuté en décembre 89. Une grande portion du centre-ville avait été complètement détruite. Bucarest a été une ville martyre, mutilée par une intervention de grande envergure. Sa mémoire collective a été détruite, cette expérience accumulée, qui était le garant des racines temporelles, a été annihilée. Bucarest a une histoire tumultueuse, des invasions, des incendies dévastateurs, des tremblements de terre, des démolitions massives du régime totalitaire. Ceci a transformé irréversiblement l'aspect de la ville. Les habitants ont dû changer de repère identitaire, ils ont souvent dû recommencer à zéro. L'autre interprétation, d'ailleurs Paul Morand donne quelque chose qui pourrait être entendu a posteriori comme une définition de la vulnérabilité que j'aime beaucoup, c'est « La leçon que nous offre Bucarest n'est pas une leçon d'art, mais une leçon de vie. Il enseigne à s'adapter à tout, même à l'impossible. Capitale d'une terre tragique, où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s'est laissé aller aux événements sans cette raideur, partant sans cette fragilité que donne la colère. Bucarest est resté gai. » Donc l'idée de la ville résiliente comme la ville gai, je la trouve en fait très, très jolie dans ces commentaires que Paul Morand fait de Bucarest. Donc ça, c'est dans les années 30, et aujourd'hui, on retrouve ces interprétations plus proches du côté du rebond, de la résilience que du côté de la ville martyre. Ni l'adversité des mouvements tectoniques, ni la modernisation rapide, ni la négligence de décennies d'économie centralisée, ni la pression des nouveaux intérêts financiers ont pu démanteler la particularité de Bucarest. La ville a conservé sa structure unique de strates entremêlées, toutes lisibles, toutes apparentes. Et en fait, les deux interprétations sont tout à fait possibles. Et qu'on se place du point de vue du bâtiment, donc les bâtiments sont maintenus, réapparaissent, et qu'on se place du point de vue du quartier, où vous voyez qu'en fait, derrière les percées, on continue de voir les anciens quartiers, et que l'on se place du côté du système urbain en général. Mais ces interprétations, elles ne datent pas juste des années 80, 90, 2000. Ce sont des interprétations divergentes que l'on retrouve déjà dans l'entre-deux-guerres, voire que l'on retrouve déjà à la fin du 19e siècle. Il y a donc une superposition de deux interprétations possibles de cette ville, qui court sur plus d'un siècle, la ville martyre, ou la ville phénix qui renaît de ses cendres, ou la ville gaie qui serait du côté de la résilience. Parce que il y a une ambiguïté sur où est-ce qu'on place le point de départ. Est-ce qu'on place le point de départ sur ce qu'était Bucarest avant de devenir capitale de la Roumanie, donc avant la moitié du 19e siècle, au moment où c'était une ville avec un aspect plus oriental, que vous voyez ici, où est-ce qu'on place le curseur, justement, après les différentes politiques de modernisation de la ville, pour en faire une vitrine de ce pays émergent qui était la Roumanie au début du XXe siècle. Donc, est-ce que ici, ce nouveau boulevard par rapport à l'ancien boulevard, est-ce qu'on est du côté du traumatisme et de la ville martyre, ou est-ce qu'on est du côté de la ville gaie et résilience? Même chose ici pour le cours d'eau, que vous voyez représenté ici au milieu du XIXe siècle et ici dans les années 30. Même chose pour les grands bâtiments du centre-ville. Est-ce qu'on est plutôt du côté du caravansérail ou plutôt des grands bâtiments publics sur le modèle autrichien, allemand ou français qui ont été construits à la fin du XIXe siècle? Eh bien, aujourd'hui, on continue à voir ces deux villes ou ces deux interprétations possibles, avec néanmoins une différence, c'est que les aspects de la ville orientale, donc ces maisons construites en bois et en torchis, avec des terrains vagues permettant une multiple fonction de pâture, de marché, etc., de respiration urbaine, étaient plutôt dans le centre-ville. Vous avez ici une carte représentant la proportion de maisons construites en bois et en torchis, et vous voyez qu'elles sont désormais plutôt en périphérie, avec les mêmes aspects. Donc l'une des ambiguïtés, elle est là, c'est qu'il ne s'agit pas de la même ville, il ne s'agit pas des mêmes points de repère, il y a comme une migration de la ville orientale, du centre, vers la périphérie. Ce qui doit attirer notre attention, enfin en tout cas moi, m'interpellait au moment où j'étais en train de faire ma thèse sur Bucarest en 2005, au moment de la mise en place du cadre de Diogo sur la résilience, m'a interpellé sur ce passage, justement, des écosystèmes au système urbain, quand on parle de système de résilience des systèmes, à savoir qu'on est en train de parler de choses qui sont peut-être un peu différentes. Parce que certes, les forêts, ici, font face à une catastrophe et renaissent de leurs cendres, mais on a tendance à oublier que les arbres qu'il y a ici, ce ne sont pas les mêmes arbres qu'il y a là. Et donc, l'une des grandes ambiguïtés, là, vous avez le fameux modèle Panarchy avec cette boucle, vous expliquant qu'au début d'une boucle, vous avez une phase de consolidation et de croissance, puis qu'en phase de catastrophe, il y a deux possibilités, soit la bifurcation et le renouveau, soit quelque chose qui est de l'ordre de la résilience, et hop, vous reprenez la boucle. C'est une vision qui est particulièrement trompeuse, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de linéaire. S'il y a destruction, ici, vos arbres ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait un moment qu'il y ait une discontinuité dans cette boucle. Sinon, on est dans l'idée que, effectivement, pour qu'il y ait un apprentissage des villes et des sociétés, il faut et il suffit de sacrifier une partie de la population dans les catastrophes précédentes. On peut en revenir à l'Iliade et se dire que pour attirer les bonnes grâces divines, il suffit de sacrifier une partie de la population pour que tout aille mieux par la suite. Et je vous vois sourire, mais néanmoins, il y a cette charge-là qui est implicite dans les ambiguïtés théoriques de la résilience et qui pose problème. Du coup, rétrospectivement, il est très difficile de parvenir à une validation parce qu'on a affaire et à des problèmes moraux et à des problèmes de choix du point de départ et du point d'arrivée. Autrement dit, on ne respecte pas le critère de non-contradiction. Il est tout à fait possible, sur un même cas d'étude, de parvenir à des conclusions complètement contradictoires en fonction de la façon dont on s'y prend. Sur une approche plus prospective, il y a deux façons de faire pour estimer la résilience, les approches top-down, nomothétiques ou globalisantes, qui sont plutôt quantitatives et portées par des organisations internationales, et les approches plutôt bottom-up, donc les approches remontantes, qui sont idiographiques, plutôt qualitatives et plutôt négociées localement. Donc ici, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Les problèmes que posent les approches nomothétiques, c'est celle de choix des indicateurs, et ces choix des indicateurs sont faits la plupart du temps, vous voyez, en fonction du coût, donc combien de temps et combien d'argent on est prêt à consacrer à mettre en place la mesure en question, et est-ce que les données vont être disponibles ou non. Une partie de ces indicateurs qui explique que dans l'idéal, il faudrait réussir à prendre en compte telle ou telle dimension de capital social, des populations dans la résilience, mais que faute de moyens de le mesurer rapidement et efficacement, et bien on le laisse pour plus tard, et hop, on met l'indicateur quand même, on sort les tableaux de bord et les chiffres à partir de là. D'où l'existence, comme il existe plusieurs définitions différentes et plusieurs façons de transformer les définitions en indicateurs et de lever ces indicateurs, de différentes mesures quantitatives de la résilience. Même chose pour les approches remontantes, donc les bottom-up, ou idiographiques, où il s'agit plutôt d'approches qualitatives, en dialogue avec les populations locales, qui sont néanmoins moins mises en avant par les organisations internationales pour deux raisons. D'abord, elles coûtent beaucoup plus cher, c'est toujours plus cher d'aller travailler avec les populations, de recueillir leur avis, d'avoir un vrai débat, plutôt que de collecter des données depuis un bureau à Genève ou à New York et de sortir des pelletés d'indicateurs. D'autre part, cela pose un problème, c'est que du coup, ces façons d'estimer ou de mesurer la résilience sont particulières à chaque étude de cas. Donc il est extrêmement difficile de monter des comparaisons à partir de ce type d'approche. Donc 2014, et en fait, si on fait le saut jusqu'en 2017, la dernière tentative de validation
des mesures de la résilience, c'est cet article par Backenson et ses collègues, Validating Resilience and Vulnerability Indices in the Context of Natural Disaster, qui est paru au début de l'année dans la revue Risk Analysis, et qui se penche justement sur, vous avez ici la Floride, ici la Louisiane, et ici le Texas. En prenant une série de mesures, vous avez ici à gauche des mesures de la résilience, à droite des mesures de la vulnérabilité, et en essayant d'ajuster un peu les couleurs pour que vous ayez représenté ici en rouge les endroits les plus vulnérables et en bleu les moins vulnérables, et du coup à gauche vous avez représenté en rouge les endroits les moins résilients et en bleu les endroits les plus résilients. On s'aperçoit en fait très vite que ces différentes mesures ne sont pas complètement convergentes. On pourrait effectivement aller jusqu'à dire, mais ici, le sud du Texas apparaît presque partout en rouge, alors que ici, le nord de la Floride apparaît presque partout en bleu. Donc, grosso modo, on est dans quelque chose de plus ou moins convergent. En fait, le diable est dans les détails, parce que le problème va être de savoir, lorsqu'on met en place des politiques publiques, est-ce que telle politique publique et tel territoire a vu sa vulnérabilité accroître ou diminuer, ou a vu sa résilience croître ou diminuer. Si on s'intéresse aux détails, le souci qu'on a, c'est que, par exemple, hop, la Nouvelle-Orléans est en bleu, en rouge, en bleu ou en rouge. Autrement dit, en fonction du thermomètre que l'on utilise, on obtient un résultat qui est un résultat différent. Donc, pareil, on retrouve ce problème de contradiction entre les différents outils de mesure découlant de différents choix méthodologiques, découlant eux-mêmes de différents... de différentes définitions, mais au-delà de ça, en essayant de confronter ces différentes estimations aux effets des catastrophes, donc sur 2000-2015, les résultats qu'ils trouvent sont assez préoccupants, à savoir que ici c'est pour les dommages. Pour les dommages, il n'y a en fait pas de relation entre les mesures de la vulnérabilité ou de la résilience et les dommages entre 2000 et 2015. Pour ici les décès, les mesures sont divergentes. Donc certaines mesures de la résilience sont corrélées négativement, d'autres positivement au décès. Autrement dit, avec certains thermomètres, plus vous êtes résilient et plus il y a eu de décès entre 2000 et 2015 suite aux catastrophes. Alors que pour un autre thermomètre, plus vous êtes résilient, moins il y a eu de décès. Et même chose pour la vulnérabilité. Et pour les déclarations de dommages, pareil, peu de liens, ou des liens pas significatifs entre le thermomètre et les résultats. Et les résultats. Oui. Alors je vous vois sourire, mais en fait la situation est encore plus compliquée que ça. C'est que sur d'autres cas d'études, c'est des travaux que j'avais menés avec des collègues suite à Sandy à New York. On a pu montrer pareil que si on s'intéresse aux effets de Sandy à New York par rapport aux différents thermomètres de la vulnérabilité dont on dispose, il y a très peu de liens que l'on peut trouver entre la façon dont fonctionne le thermomètre et les effets concrets de Sandy en 2012. Autrement dit, on est avec la résilience pas très éloignée de la vulnérabilité, à savoir l'incapacité à mettre en place des outils de mesure performants pour appuyer des politiques publiques performantes. Donc, cette phase 6, qui avait été identifiée ici en 2014, on ne l'a toujours pas dépassée. L'une des choses dont j'aimerais débattre avec vous, et peut-être qu'on aura un moment en fin de matinée ou pendant un repas par la suite, c'est que je crois qu'il n'est pas possible, avec la résilience, d'atteindre cette étape 6. Autrement dit, je pense qu'il n'est pas possible de valider empiriquement quelque chose qui serait de l'ordre de la mesure de la résilience. Avec la vulnérabilité, on voit très bien comment faire. C'est-à-dire, on regarde ce qu'il y a avant, juste avant la catastrophe, et on regarde quelles sont les populations, les quartiers, les villes, les territoires qui subissent la plus lourde charge pendant la catastrophe, et donc ce sont effectivement eux qui sont vulnérables. Et à partir du moment où on est capable de prédire quels segments de la population vont être les plus affectés, on a une mesure qui est une mesure valide de la vulnérabilité. Dans le cadre de la résilience, je pense que ce genre d'opération-là n'est pas possible. D'abord parce qu'on a vu que rétrospectivement, on est dans quelque chose qui est très souvent contradictoire. Donc en fonction des hypothèses qui sont mises en avant, on se dirige vers une conclusion en faveur de la résilience ou une conclusion en faveur de la résilience. Et d'autre part, parce que on est sur des processus qui sont sur des temporalités différentes. Donc il y a besoin de davantage de recul pour éventuellement extraire les données qui permettraient de valider ou de ne pas valider une mesure de la résilience. Et d'ailleurs, ce problème de contradiction, on l'a vu très bien pour les 10 ans de l'anniversaire de Katrina à la Nouvelle-Orléans, où vous avez, donc là je vous les ai mis en parallèle, hein, mais c'est en même temps, le président Obama qui va faire un grand discours sur la Nouvelle-Orléans, ville résiliente, qui renaît de ses cendres, on est 10 ans après Katrina, en 2015, et en même moment, des riverains, qui mettent en place cette campagne d'affichage. Arrêtez de m'appeler résilient, parce que à chaque fois que vous dites « Oh, vous êtes résilient », vous pourriez faire quelque chose d'autre à la place pour m'aider. Je ne suis pas résilient. Donc, il est possible, 10 ans après Katrina, d'aller à la Nouvelle-Orléans et de tenir les deux discours. Résilient, pas résilient. Le problème, c'est que j'ai essayé de vous montrer qu'il n'y a pas de façon de trancher. Nous ne disposons pas d'outils permettant de dire ce discours-là est plus en relation avec le fonctionnement effectif de la ville et des territoires que l'autre discours. Autrement dit, quand on est face à des politiques publiques qui parlent de lever des fonds pour coordonner de la résilience, etc., on est dans quelque chose qui continue de relever du jeu vidéo. C'est la raison pour laquelle je pense que dans le cadre des politiques publiques de résilience, comme dans le cadre du jeu vidéo, on est face à quelque chose qui nous en dit plus sur la personne qui formule l'analyse, sur la personne qui formule le projet, qu'on est en train d'en apprendre sur le fonctionnement concret des territoires. Et donc, c'est la raison pour laquelle je parlais de critique. Je pense que c'est extrêmement difficile parce que face à quelque chose qui relève de l'horizon d'attente, qui a soulevé énormément d'espoir, il est difficile d'expliquer qu'en fait on peut dire tout et son contraire, mais je pense que c'est l'un des gros soucis sur la résilience, c'est qu'il est tout à fait possible de dire tout et son contraire sans les outils permettant de donner plus de rapport avec la réalité à l'un de ces discours qu'à un autre. C'est la raison pour laquelle je propose de considérer la résilience d'abord comme des outils discursifs, mais d'abord comme des outils discursifs qui sont à démonter pour... En fait, la résilience a une portée heuristique, elle a une portée heuristique sur la façon dont les projets sont construits, la façon dont les politiques publiques sont mises en place, et je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable de conserver cette dimension-là heuristique de la résilience, savoir qu'est-ce qu'elle nous apprend de la façon dont sont énoncées, créées et mises en place des politiques publiques, que ce sur quoi la résilience pourrait nous apprendre du fonctionnement des territoires, puisqu'il est possible de ne pas parvenir à trancher entre des interprétations contradictoires de ce que la résilience aurait à dire des territoires. Donc, je vous recommande donc, lorsque vous êtes face à, que ce soit un jeu vidéo qui soit joli, ou un jeu vidéo qui cherche à lever des fonds pour venir en aide à des populations, à essayer de continuer à adresser des questions exigeantes aux projets et aux politiques publiques de résilience pour éviter qu'il s'agisse d'une mise en récit incantatoire de ce que devrait être l'après-résiliente, de ce que devrait être l'après-catastrophe, pour que ce ne soit pas juste une mise en récit incantatoire de ce qu'est la bonne ville contre la mauvaise ville, le bon territoire contre le mauvais territoire, les bons citoyens contre les mauvais citoyens, etc. Savoir qui dit la résilience, quand est-ce que dit la résilience, selon quels critères, comment, pourquoi, et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la façon dont est géré ce territoire, plutôt que ce qu'elle nous apprendrait sur la façon dont ce territoire fonctionne. Je vous remercie.